Et bonjour à toutes et à toutes. Vous écoutez Retour vers le cinéma, votre émission de ciné favorite. Vous êtes sur CFM Radio et je suis en présence aujourd'hui de Vadim.
Bonjour tout le monde.
Et de Pa Elodie et de notre invité Lilou.
Bonjour à tous.
Aujourd'hui, c'est Vadim qui va nous présenter les Oscars. Mais sans plus tarder, la Minute Info.
Et vous retrouverez cette semaine au cinéma They Will Kill You, un film d'horreur de Kirill Sokolov avec Zazie Beetz, Tom Felton et Heather Graham. Une jeune femme doit survivre toute une nuit au Virgile, le repère mystérieux d'une secte démoniaque qui se révèle rapidement être un piège mortel. Un peu logique. Et les adeptes, eux, comptent bien faire de la malheureuse leur prochaine offrande. Vous retrouverez aussi L'Ultime Héritier, une comédie thriller de John Patron Ford avec Glenn Powell, Margaret Qualley et Ed Harris. Beckett Wedfellow, un jeune homme charismatique mais renié par les siens, décide de reprendre ce qui lui revient de droit pour hériter de la fortune familiale. Il met alors au point un plan machiavélique pour éliminer un à un les 7 membres de sa richissime lignée. Un film signé A24. Et bien évidemment, vous pourrez retrouver tous ces films au CGR Le Paris et CGR Multiplex d'Aussonne à Montauban.
Eh bien, merci Vadim. On passe tout de suite au Qu'est-ce que t'as vu ?
Eh bien, Lilou, qu'est-ce que t'as vu cette semaine ?
Alors, cette semaine, j'ai vu L'Orphelinat, un film qui est sorti en 2008. C'est un film espagnol réalisé par Juan Antonio Bayona. Laura est donc une femme qui décide de venir réhabiter l'orphelinat où elle était quand elle était petite avec son fils et son mari. Et il va se passer des choses plutôt étranges. Je vais éviter de vous spoiler, mais c'est un film d'horreur très, très bien, je trouve. Même s'il date de 2008, je trouve que l'intrigue est toujours moderne et innovante. On ne voit pas beaucoup de ce genre d'intrigue dans les films d'horreur encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup. C'est aussi parce que c'est le premier film d'horreur que j'ai vu. À l'époque, quand j'étais du coup petite. Et voilà, je l'aime beaucoup, franchement, allez le voir. Je l'ai noté 5 étoiles sur 5.
Ah ouais, ah bah là tu l'as surkiffé.
Et toi Lina, qu'est-ce que t'as vu cette semaine ?
Alors moi cette semaine, j'ai vu, ou plutôt revu, un film d'animation que je pense parle à beaucoup d'entre nous, et plutôt les enfants qu'on était avant. Jack et la mécanique du cœur de Mathias Malzieu, qui découle d'ailleurs de son livre. Donc on y retrouve la voix de Mathias Malzieu lui-même, mais aussi Olivia Ruiz ou encore Grand Corps Malade. On suit l'histoire de Jack qui naît le jour le plus froid du monde. Son cœur est gelé. On arrive chez le docteur Madeleine qui, à la place de son cœur, lui met une horloge pour qu'il puisse vivre. Cependant, petit problème parce que avec cette horloge, son cœur reste fragile. Donc, il doit suivre 3 grandes règles. Ne pas toucher à ses aiguilles, maîtriser sa colère et surtout ne jamais, au grand jamais, tomber amoureux. Donc vous doutez bien que vivre pour lui, c'est un petit peu compliqué puisqu'il doit se conformer à ces 3 règles. Et on va suivre ses aventures. Je ne dis rien de plus, mais c'est super intéressant. Alors moi j'adore ce film d'animation parce que certes il a bercé mon enfance, mais je ne m'en lasserai pas. Je le re-regarde du haut de mes 18 ans et certes, mon regard a changé, mais j'apprécie toujours autant, si ce n'est plus d'ailleurs, en fait. Et il y a un point de vue philosophique qui est très important et ça nous amène à réfléchir sur tout ce qui est émotion, tout ce qui est amour, mais ça nous amène même au-delà à réfléchir sur des vastes sujets, sur tout ce qui est marginalité, qui est une bonne personne, qui n'en est pas une. Enfin, c'est vraiment super intéressant. Et la musique est géniale. Je connais toutes les chansons par cœur maintenant. Je commence à connaître. Et il est juste magnifique, ce film d'animation. Alors, pour moi, ça a toujours été et ça restera un 5 sur 5. Et toi, qu'est-ce que t'as vu, Vadim ?
Eh bien, moi, ce n'est pas un film que j'ai vu, mais bien une série, La Chute de la Maison Usher sur Netflix. C'est la série de Mike Flanagan sortie en fin 2023, celle qui clôture un peu son cycle chez Netflix avant qu'il ne parte pour son énorme projet de La Tour Sombre. Est-ce que vous connaissez ce roman ?
La Tour Sombre ou
Oui, La Tour Sombre.
Okay. Non.
C'est le plus grand projet de Stephen King qui reprend en fait tous ses personnages, et, enfin bref, dans un seul monde.
Non, je connais pas.
Donc c'est en préparation. Et pour en revenir du coup à la chute de la Maison Usher, Flanagan, lui, il va s'en prendre donc à l'œuvre d'Edgar Allan Poe, mais il le fait de manière hyper moderne. Il transporte un peu l'univers de Poe et une famille de milliardaires américains, les Usher, qui sont littéralement la famille Sackler, derrière le scandale de tout ce qu'il y a eu avec l'oxycodone.
L'oxycontin.
Et l'histoire, elle est simple, du coup, on suit la mort de chaque enfant de la famille. Un épisode, un gosse Usher et une nouvelle de Poe revisitée, comme on a eu droit au Scarabée d'or, le cœur révélateur, ou aussi le corbeau. Et c'est sans doute la série la plus noire de Flanagan. Les personnages sont détestables, ils sont bouffés par l'ego et le fric. Et visuellement, c'est du grand art. Les scènes de mort sont de vrais tableaux macabres, parfois très graphiques. Celle du premier épisode, elle est d'ailleurs assez magistrale. Et puis, il y a le casting d'habitués, avec Henry Thomas, Carla Gugino et sa femme Kate Segal. Mais j'ai surtout adoré Mark Hamill. Il est dans un contre-emploi total, loin de Luke Skywalker. Il joue l'homme de main de la famille, un type énigmatique, froid et d'une efficacité redoutable. Pour moi, c'est clairement le personnage le plus intéressant de toute la série. Au final, qu'on essaie de le classer par rapport à Hill House ou Midnight Mass, peu importe, c'est une réussite totale qui prouve que Flanagan est devenu, selon moi, le maître vraiment à mélanger l'horreur pure avec la tragédie humaine dans les séries. Et si vous l'avez raté du coup à sa sortie, c'est vraiment un bon voyage de 8 épisodes qui vaut le détour. Je l'ai noté 8 sur 10.
On passe tout de suite à la coupure musicale I Lied to You de Miles Keaton. Something I've been wanting to tell you for a long time. It might hurt you. Hope you don't lose your mind. Well, I was just a boy, about 8 years old. You threw me a Bible on that Mississippi road. See, I love you, Papa. You did all you could do. And they say the truth hurts, so I lied to you. Yes, I lied to you. I love the blues. Hey, somebody take me in your arms. Somebody take me in your arms tonight. Yeah, yeah. Somebody take me in your arms I'm not afraid to die. C'était I Lied to You de Miles Keaton dans le film Sinners, dont d'ailleurs nous allons probablement parler puisque Vadim va nous parler des Oscars.
Et oui, Lina, les Oscars, ils sont passés ce dimanche 15 mars 2026 et on a eu pas mal de gagnants comme d'habitude. Et on a eu Sinners qui avait raflé quand même la plus grande nomination avec 16 nominations de l'histoire des Oscars. Alors je vais vous faire un petit récapitulatif des films qui ont pu gagner le prix. Quel prix aussi. Donc cette année, pour le meilleur film, on a pu avoir une bataille après l'autre. L'Agent Secret, Bugonia, Marty Suprême, Train Dreams, F1, Sinners, Frankenstein, Hamnet et Valeurs Sentimentales qui ont pu être nommés, mais un seul gagnant, à votre avis, qui est-ce?
Alors, j'en ai vu que un et demi, parce que j'ai vu... Ah non, j'en ai vu deux et demi, parce que j'ai vu F1 deux fois. Marty Suprême une fois et Valeurs Sentimentales j'ai dormi, du coup je le compte mais à moitié et je pense que c'est aucun des trois.
Oui c'est ça, c'est une bonne réponse. Elina, tu penses que...
Eh bien moi j'ai vu que c'était One Battle After Another.
Ah donc t'avais la réponse et c'est bien ça, c'est une bataille après l'autre.
L'accent anglais a quitté le chat.
Exactement, et donc c'est Paul Thomas Anderson qui a réalisé le meilleur film selon les Oscars de cette année.
Après, ils réalisent des bons films aussi.
Pour la meilleure réalisation, on a pu avoir Paul Thomas Anderson pour Une bataille après l'autre, Chloé Zhao pour Hamnet, Ryan Coogler pour Sinners, Joachim Trier pour Valeurs Sentimentales et enfin Joshua Safdie pour Marty Suprême.
Ça rejoint ce que j'ai dit du coup il n'y a pas très très longtemps. Vu que Paul Thomas Anderson est quand même un très bon réalisateur, je pense que... C'est lui qui l'a eu pour One Battle After Another.
Et oui, c'est lui qui a pu remporter la meilleure réalisation cette année avec son film One Battle After Another, une bataille après l'autre. Pour la catégorie meilleur acteur, on a pu avoir Michael B. Jordan pour Sinners, Timothée Chalamet pour Marty Suprême, Leonardo DiCaprio pour Une bataille après l'autre, Wagner Moura pour L'Agent Secret et Ethan Hawke pour Blue Moon. À votre avis, qui est le gagnant ?
De tous ces films, j'ai vu que Marty Suprême. Du coup, je peux que parler de Timothée Chalamet. Selon moi, il joue un peu trop bien son rôle.
Bon, après, il y a souvent des rôles comme ça où les acteurs sont tellement bons que du coup, on a envie de les détester aussi. Après,
il y a
eu la petite polémique qui doit accentuer le truc, je pense aussi.
Mm-hmm. Bien, la réponse, c'était Michael B. Jordan qui a pu repartir avec la statuette. Dans la catégorie meilleure actrice, on a pu retrouver Jessie Buckley pour Hamnet, Emma Stone pour Bugonia, Rose Byrne pour If I Had Legs I'd Kick You, Renée...
Bah ton accent anglais, voilà, mais j'ai pas compris ce que t'as dit.
Avec du coup l'accent français If I Had Legs I'd Kick You.
Parfait.
Voilà, c'est
t'as
parfait.
Un bon français, j'ai
Écoute,
kiffé.
Et merci. On a eu aussi Renée Rest. Alors là, c'est mort pour essayer de prononcer. J'ai beaucoup de difficultés pour donc Valeurs Sentimentales. Kate Hudson pour Sur un air de blues. À votre avis, qui a remporté la statuette ?
Je pense que c'est Emma Stone. Je sais pas pourquoi. Je le sens bien.
Mm-hmm. Moi, je pense que c'est l'actrice pour Hamnet parce que j'ai vu la bande-annonce et que ça m'avait...
Eh bien, c'est la bonne réponse. C'est okay, Jessie Buckley qui a remporté la petite statuette. Pour la catégorie du meilleur acteur dans un second rôle, on a eu Sean Penn pour Une bataille après l'autre, Delroy Lindo pour Sinners, Benicio del Toro pour Une bataille après l'autre, Jacob Elordi pour Frankenstein et Stellan Skarsgård pour Valeurs sentimentales.
Je n'ai aucune idée de qui ça pourrait être.
Je vais dire le seul que je connais, Jacob Elordi.
Et non, bah moi, je suis content parce que c'est pour celui que je... Pour moi, il méritait le plus de le gagner, c'est Sean Penn, qui n'était même pas présent pour la cérémonie d'Oscar, parce qu'il était en Ukraine. Dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle, on peut retrouver Amy Madigan pour Évanouie, Taina Taylor pour Une bataille après l'autre, Wumni Moussako pour Sinners, Elle Fanning pour Valeurs sentimentales, et oh mon Dieu, si j'écorche le nom, je suis désolé, mais je n'ai pas autant d'aptitude en langue. Inga Ibstöder Lilleas pour Valeurs sentimentales. À votre avis, qui est la gagnante ?
J'en ai vraiment aucune idée.
Eh ben, au hasard, moi, je vais dire Elle Fanning, parce que, je sais pas, je la connais.
Et non, c'était plutôt un Oscar de carrière, j'ai l'impression. C'est Amy Madigan, du coup, pour Évanouie, qui a remporté la statuette. Pour la meilleure chanson originale, on a pu avoir Golden. Oui, Golden.
Golden Shower.
Oh non. Oh non.
On a pu avoir Twin Dreams, Dare Me, I Lied to You et Sweet Dreams of Joy. À votre avis, laquelle a remporté la statuette ?
Malheureusement, je pense que je vais dire Golden.
Eh oui, c'est Golden. C'est
ouais,
Golden.
Bah, j'allais dire.
Golden. Après, moi, je trouve qu'il aurait pu. Ah, il aurait été meilleur pour A Light to You, mais Golden l'a remporté.
En fait, je pense à mes parents qui se plaignaient de la Reine des Neiges à l'époque et qui maintenant, il y a les nouveaux parents qui se tapent Golden et je me dis, mais nos darons, ils devraient nous remercier en fait.
Ouais, je comprends. Pour le meilleur film d'animation, on a pu avoir K-pop Demon Hunter, Arco, Amélie et la métaphysique des tubes, Elio et Zootopie 2. À votre avis, qui a gagné ?
Zootopie 2, je dirais.
Moi, je pense que c'est, malheureusement, K-pop Demon Hunter.
C'est K-pop Demon Hunter.
Mais il avait dit au César, il disait que c'était sûr. On aurait, enfin, moi, j'aurais aimé que ce soit Zootopie, soit Arco, parce que France représente. Mais c'était sûr, ça allait être K-pop Demon Hunter.
Pour la meilleure musique de film, on a pu avoir Sinners, Bugonia, Frankenstein, Hamnet et Une bataille après l'autre.
Sinners, peut-être ?
C'est dans la logique, ouais, c'est Sinners qui a gagné. Après, c'est Ludwig Göransson qui est derrière pas mal de tubes dans Oppenheimer.
Eh bien, merci à tous. On peut pas tous les faire, mais énorme pensée à tous ceux qui sont derrière la technique. Bon, forcément, moi, je pense au directeur de la photographie. Il y a encore plein
au décor aussi.
Les décors, le montage. On pense à eux, évidemment. C'est toujours intéressant de se renseigner. Mais sur ce, on doit quand même vous laisser. À la semaine prochaine.
Au revoir.